Il est 14h20 et tout de suite, rêve poème.
Vos papiers, poète, vos papiers.
Guy Housset dans Rêve poème pour Radioactive. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poète canadien qui s'appelle Émile Néligan. Il est peu connu en France, mais très réputé au Canada. Émile Néligan est né en 1879, il décède en 1941. Il sera beaucoup inspiré par les poètes Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Maurice Rollinat et Edgar Poe. Parmi les thèmes récurrents de ses poèmes, on note l'enfance, la folie, la musique, l'amour et la mort. Doué d'un talent précoce comme Arthur Rimbaud, il envoie dès cette époque ses poèmes au journal Le Samedi de Montréal, lequel publie son premier poème le 13 juin 1896, qu'il signe sous le pseudonyme d'Émile Covard. Il s'agit de rêves fantasques. Néligan n'a alors que 16 ans. En 1898, son père, qui n'apprécie guère le mode de vie bohème de son fils, décide de lui apprendre de force le travail en l'envoyant faire un voyage en Angleterre. Le retour précipité de son fils l'oblige à lui trouver un emploi local. En septembre, Émile Néligan sera comptable chez un marchand de charbon pendant 15 jours, puis sur les instances de sa mère auprès du juge Gonzalve de Saunier, membre de l'école littéraire de Montréal. Néligan est réadmis dans ce cénacle littéraire le 9 décembre 1898. En 1899, au cours d'une séance publique de l'école, Néligan fait la lecture de 3 poèmes, dont sont réputés la romance du vin, qui reste gravé dans la mémoire collective, car il est le dernier à être prononcé en public par le poète, qui, dans la même année, est diagnostiqué comme souffrant de graves psychoses, dont il ne se remettra jamais. Il n'a jamais eu la possibilité d'achever son premier ouvrage de poésie, qui devait s'intituler « Le récital des anges ». À la demande de ses parents, Néligan est interné le 9 août 1899, il a 20 ans, à la retraite Saint-Benoît, un asile tenu par les Frères de la Charité dans l'est de l'île de Montréal. En 1925, il est transféré à l'asile de Saint-Jean-de-Dieu, où il vit jusqu'à son décès en 1941. Le premier poème que je vais vous lire s'intitule « Mélodie de Rubinstein ». Alors, qui est Rubinstein ? Rubinstein, c'est un pianiste-compositeur, né en 1887 et décédé en 1982. C'est un pianiste qui a énormément joué et Néligan a écrit un poème à cette romance, à cette mélodie de Rubinstein. Mélodie de Rubinstein. C'est comme l'écho d'un sacré concert qu'on entend soudain sans rien y comprendre. Où l'âme se noie en haschich amer que fait la douleur impossible à rendre. De ces flots très lents, cœur ayant souffert de musique épris comme un espoir tendre qui s'en va toujours, toujours en méandre dans le froid néant où dorment leurs nerfs. Ils n'ont rien connu sinon un grand rêve. Et la mélodie éveille sans trêve quelques sympathies au fond de leur cœur. Ils ont convenance aux mélancoliques accords qu'ils mentaient à leur chant lyrique, la douce passion qui fait les bons heures. Dans ce poème, Néligan... Et on voit, il est très tourmenté par la musique. Il dit ne rien y comprendre. Il se noie en haschich amer. Alors, avait-il pris un petit peu d'herbe avant d'aller au concert? Ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de souffrance dans ce poème. Il dit le cœur ayant souffert de musique est pris comme un espoir tendre. Il y a du rêve également. Ils n'ont rien connu, sinon un grand rêve. Et la mélodie éveille sans trêve quelques sympathies au fond de leur cœur. Néligan, dans ce poème, montre, à travers la musique, ses tourments. Le deuxième poème s'intitule « Le vaisseau d'or ». Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur, sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue s'étalait à sa proue, au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil, dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or, dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose, entre eux, ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Ce poème sous forme de sonnet est prémonitoire. Le poète pressent sa fin dans l'empire de la folie. Dans le premier quatrain, il se présente comme un jeune au talent exceptionnel, un vaisseau taillé dans l'or massif, la cyprine. Cette figure qui moulait la proue des bateaux antiques représente bien toute la sensualité qui s'éveille dans ce corps de 17 ans. Et sa sensibilité excessive est soulignée par de nombreuses majuscules. C'est un poète qui s'apprécie beaucoup, comme tous les jeunes narcisses de son âge. Le deuxième quatrain attire l'attention sur le malheur qui l'attend. Ce beau talent ne pourra s'exprimer. Quand on connaît ses relations avec son père, ses mauvaises relations, on imagine que le grand écueil symbolise la figure paternelle qui s'oppose à son projet d'écriture. On peut imaginer aussi l'époque qui se prêtait mal à l'expression des sentiments. Le premier tercet dans ce sonnet résume les deux quatrains. Un jeune plein de talent, éloquent, fut victime de gens rustres, incapable d'apprécier sa valeur. Mais le dégoût, haine et névrose restent ambigus. La logique fait défaut. Pourquoi voudrait-on se disputer l'image qu'il projetait? Le dernier tercet de ce sonnet vient identifier le vaisseau par un simple « mon cœur ». Ainsi, la métaphore nous renvoie au sort de ce jeune poète qui sent qu'il n'aura pas assez de force pour affronter l'adversité. Le troisième poème s'intitule « La romance du vin », je vous en parlais en préambule. C'est l'un de ses plus célèbres poèmes. Il est assez long, mais très beau. La romance du vin. Tout se mêle en un vif éclat de gaieté verte. Oh, le beau soir de mai. Tous les oiseaux en chœur, ainsi que les espoirs naguère à mon cœur, modulent leur prélude à ma croisée ouverte. Oh, le beau soir de mai, le joyeux soir de mai, un orgue au loin éclate en froide mélopée. Et les rayons, ainsi que de pourpres épées, percent le cœur du jour qui se meurt parfumé. Je suis gai, dans le cristal qui chante, verse, verse le vin, verse encore et toujours. Que je puisse oublier la tristesse des jours, dans le dédain que j'ai de la foule méchante. Je suis gai, vive le vin et large, et le rêve de faire aussi des vers célèbres, des vers qui gémiront les musiques funèbres, des vents d'automne au loin passant dans le brouillard. C'est le règne du rire amer et de la rage, de se savoir poète et objet de mépris, de se savoir un cœur et de n'être compris que par le clair de lune et les grands soirs d'orage. Femme, je bois à vous qui riez du chemin, où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je bois à vous surtout, homme au front morose, qui dédaignez ma vie et repoussez ma main. Pendant que tout l'azur s'étoile dans la gloire et qu'un rythme s'entonne au renouveau doré, sur le jour expirant, je n'ai donc pas pleuré, moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire. Je suis gai, vive le soir de mai, je suis follement gai, sans être pourtant ivre. Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre? Enfin, mon cœur est-il guéri d'avoir aimé? Les cloches ont chanté, le vent du soir odore, et pendant que le vin ruisselle à joyeux flot, je suis gai, si gai, dans mon rire sonore, oh, si gai, que j'ai peur d'éclater en sanglots. Ce Ce poème sur le vin mélange à la fois la tristesse et la colère. Les passages sont alternés. Il est à la fois très gai, il le dit, je suis gai, et à la fois très triste. C'est un poème très, très ambigu. Les faces sont emmêlées, c'est-à-dire qu'il alterne à la fois la beauté de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent à travers le vin, à la méchanceté qui l'entoure. Mon dernier poème s'intitule « Clair de lune intellectuelle ». Clair de lune intellectuelle, ma pensée est couleur de lumière lointaine, du fond de quelques cryptes aux vagues profondeurs. Elle a l'éclat parfois des subtiles verdeurs d'un golfe où le soleil abaisse ses antennes. En un jardin sonore, au soupir des fontaines, elle a vécu dans les soirs doux, dans les odeurs. Ma pensée est couleur de lumière lointaine, du fond de quelques cryptes aux vagues profondeurs. Elle court à jamais les blanches prétentaines, au pays angélique où montent ses ardeurs, et, loin de la matière et des brutes laideurs, elle rêve les sorts aux célestes Athènes. Ma pensée est couleur de lune d'or lointaine. Ce poème évoque un caractère tout à fait évanescent. C'est un lieu d'expression spirituelle, autorisant, je dirais, une lecture symbolique de ce poème. C'est un petit morceau d'architecture, c'est un véritable morceau d'art poétique. L'image, comme on l'a déjà noté à propos de l'imprécision du vocabulaire, ne donne pas à voir, mais respecte et renforce l'interdit de dévoiler. L'imagination métaphorique travaille chez Nelligan à déconcrétiser le corps désirable qui est astralisé par le regard artistique. Et c'est signé Baudouin. Avant de nous quitter, j'aimerais que nous écoutions la mélodie en fa majeur d'Anton Rubinstein pour violon et piano. Je vous dis à bientôt.